Alors, ça commence bien, n'est-ce pas? Les jeunes, je ne serai pas là toujours, donc essayez d'apprendre un nouveau mot. Je reviendrai tout à l'heure sur ce petit mot. Oh, c'est pour faire un petit peu savant, c'est tout. Il paraît que la culture, c'est comme du beurre. Moins on en a, plus on l'étale, n'est-ce pas? Alors, permettez-moi d'étaler un mot peut-être qui n'est pas connu de tout le monde. Et j'ai une autre diapo. Alors, si ça marche. Bon, apparemment, on a quelques difficultés. Je vais demander l'aide de la régie. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est la fameuse question d'un enfant. Maman, comment fait-on les enfants? Et la maman, embarrassée, dit, va demander à ton père. L'enfant court vers son père. Papa, comment on fait les enfants? Et le papa, silence absolu, rien. Papa, comment on fait les enfants? Et la réponse du papa, embarrassé, va voir ta mère. Alors le dessin ne montre pas tout, mais comme l'enfant insiste, le père finit par lui dire, mais petit curieux, ne sais-tu pas que la curiosité est un vilain défaut? Je me suis vraiment interrogé, est-ce que la curiosité est-elle un vilain défaut? N'est-ce pas plutôt une qualité de quelqu'un, enfant ou adulte, qui a le désir de connaître, de savoir, de comprendre? On a parfois entendu des chercheurs témoigner que c'est leur curiosité qui les a poussés à faire des études scientifiques et qui les a poussés à embrasser une carrière dans le domaine de la recherche. Certes, parfois, il y a de la curiosité, en tout cas la curiosité des autres, c'est toujours la curiosité des autres, n'est-ce pas? Et notamment de nos enfants qui nous dérangent. Elle implique donner des réponses à des questions parfois difficiles que les gens se posent, que nous nous posons. Et parfois, elles nous semblent gênantes parce que, par leur teneur, mais aussi parce que nous ne savons pas toujours comment répondre. Ou alors, la curiosité ressemble à quelque chose de malsain, indiscret, comme celle de cette image où deux femmes complètement différentes l'une de l'autre dans leur manière de s'habiller se retrouvent ensemble et l'une d'elles demande à l'autre « Tu n'as vraiment pas d'argent pour t'acheter des nouveaux habits, des nouveaux vêtements ?»« Pardon ?» Je dis, tu n'as pas d'argent pour t'acheter des vêtements? Et l'autre embarrassé finit par lui dire, je ne comprends pas ta question. Mais alors, lorsque la curiosité est saine, lorsqu'elle stimule la créativité, lorsqu'elle favorise l'apprentissage, la connaissance, même la prise de décision, dans ce cas-là, béni soit la curiosité, n'est-ce pas? Béni soit la curiosité. Lorsqu'elle témoigne du désir de voir, de découvrir, de connaître, de comprendre, béni soit-elle. Alors pourquoi je vous parle de cela? Pourquoi je commence ma méditation de ce matin par ce sujet-là? Parce que je voulais justement attirer l'attention, votre attention, sur la curiosité d'un homme qui, grâce à elle, a été complètement transformé, bouleversé. Son épistémophilie, nous arrivons au fameux mot, non pas au sens psychanalytique, hein, parce que c'est une autre affaire, mais tout simplement au sens étymologique du terme, c'est-à-dire celui de curiosité, de désir de voir et d'apprendre, a conduit cet homme à rencontrer celui qu'il cherchait, à voir, dit le texte, et dont il avait vraiment besoin de connaître, peut-être sans le savoir. C'est l'histoire, toute simple et très intéressante, d'un homme qui cherchait à voir Jésus, dit le texte. Qui cherchait à voir qui était Jésus. En nous décrivant la curiosité de cet homme et son profond désir de rencontrer Jésus, ce récit nous montre de façon finalement décisive et complète le but de la venue de Jésus dans ce monde parmi nous et ce qu'il peut faire dans la vie de celui qui vient à lui, de celui qui le cherche. Non seulement il l'a vu, l'a rencontré, mais plus encore. C'est ce que nous allons découvrir dans ce récit de Luc, chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10 que je vais lire. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà donc l'histoire très intéressante, je trouve, d'un petit épistémophilique qui voulait tout simplement voir Jésus. Vu les indicateurs que Luc nous donne dans ce récit, il s'agit d'une vraie histoire qui s'est passé dans une très jolie ville proche de Jérusalem, à l'ouest de Jérusalem, appelée Jéricho. Une ville située à 23 kilomètres à vol d'oiseau de Jérusalem. C'était une ville célèbre et les textes bibliques, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, parlent d'elle à plusieurs reprises. La fameuse prise de Jéricho par Josué et ses hommes au son des trompettes, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas cet événement, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament? C'est sans doute l'événement le plus connu de cette ville, en tout cas pour ceux qui sont familiers de la Bible, n'est-ce pas? Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 34, elle est désignée comme étant la ville des palmiers. D'ailleurs, la Torah la mentionne aussi comme ville des palmiers. Il y avait également de grandes quantités de sapins dont l'odeur parfumait l'air à plusieurs kilomètres aux alentours. Ces jardins pleins de roses étaient bien connus. Jéricho était décrite comme une ville d'abondantes sources d'eau tiède et d'eau froide qui donnait lieu à la culture de nombreux fruits. Citron, orange, melon, figues, raisins, bananes, etc., etc. Joseph l'appelait une région divine. Bien évidemment, l'Empire romain qui dominait la Palestine à cette époque, donc c'était la puissance occupante, n'est-ce pas, d'un grand territoire, exploitait à l'extrême les richesses de cette ville, notamment les dattes produites par les palmiers et le parfum des sapins. Et c'est ainsi que cette ville est devenue une place de commerce et de transit entre l'Orient et l'Occident. Or, dans cette ville de Jéricho, c'est dans cette ville qu'il y a eu aussi la guérison de deux aveugles aux portes de la ville. et cette surprenante rencontre de Zachée avec Jésus. Zachée, dont le métier était celui de chef des collecteurs d'impôts, aujourd'hui je ne sais pas comment on l'appellera, monsieur l'inspecteur des impôts peut-être, moi je ne connais pas bien ces domaines, en tout cas un homme bien placé dans ce domaine-là, n'est-ce pas ? Race qui n'a jamais été bien appréciée, d'ailleurs de nos jours c'est la même chose, mais à l'époque c'était pire encore, parce que les receveurs d'impôts travaillaient pour le compte de l'Empire romain, la puissance occupante. Donc le peuple juif était dominé par eux. Alors je vous laisse imaginer les soucis que Zachée et ses compagnons, n'est-ce pas, avaient vis-à-vis de leurs compatriotes. Zachée était très bien vu par l'Empire romain, mais très mal vu par les gens de son peuple, ses compatriotes. Car les gens de son peuple voyaient en lui, comme on dit, un collabo, un traître, un renégat. Et cela constituait un affront terrible aux yeux de ses compatriotes juifs. Ce qui explique d'ailleurs leur réaction quand ils ont vu Jésus entrer dans la maison de Zachée, n'est-ce pas, les murmures. Il est entré chez un homme pécheur. On sait aussi que les collecteurs d'impôts à l'époque n'avaient pas de scrupules à prélever davantage d'impôts que ceux qui étaient exigés par les autorités. Ils le faisaient bien sûr pour leur propre profit, pour s'enrichir. Et le système établi par l'Empire romain se prêtait aisément à ce genre d'abus de pouvoir, puisque leur salaire était payé au mérite et en fonction des résultats obtenus. Et grâce à cela, donc, leur ruse et l'ignorance des gens donc, faisaient le reste, n'est-ce pas ? Ils pouvaient voler presque comme ils voulaient. Ils dépassaient souvent les limites en exigeant plus que ce qui était prévu. Nous ne savons pas si c'était le cas de Zachée, puisque le texte ne dit pas, et je pense qu'il faut éviter les généralisations, n'est-ce pas ? Tout le monde n'est pas pareil. Peut-être qu'il était un receveur d'impôts honnête et scrupuleux dans l'exercice de ses fonctions, on ne sait pas. Ceci dit, il était tout de même détesté, méprisé par ses semblables. Et nous ne savons pas comment il a pu s'enrichir, parce que Luc dit que c'était un homme riche. En plus, il était si bien noté par son hiérarchie qu'il est monté de grade facilement. Il est arrivé au top, il est devenu chef. Chef des collecteurs d'impôts. Quelle notoriété pour les Romains, pas pour les Juifs. Luc souligne enfin que Zachée était non seulement riche, qu'il avait un statut élevé, mais aussi qu'il était un homme de petite taille. Un petit Samuel, mais en plus avec de la richesse que je n'ai pas. J'ai d'autres types de richesses, mais pas celle-là. Bref, tous ces détails qui nous sont communiqués nous disent qu'il s'agit finalement d'une vraie histoire située dans le temps et dans l'espace. Ce n'était pas une parabole, c'était une vraie histoire. Or, Luc nous raconte cette histoire vraie à cause de quelque chose de très intéressant chez cet homme. Son désir de voir Jésus. Son désir de voir Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus, dit Luc. C'était celui-là, son seul mobile, sa seule motivation, son seul désir, voir Jésus. Je me suis interrogé, s'agit-il d'une simple curiosité de sa part ou quelque chose d'autre de plus profond ? Je suis convaincu qu'il y avait en lui un profond désir de voir et pourquoi pas de rencontrer Jésus, l'ami des piégés et des gens de mauvaise vie, comme il le disait à l'époque. Donc celui qui pouvait peut-être être son ami, le seul peut-être juif qui pouvait être son ami puisqu'il était piégé. Et sans doute que lui, Zachée, piégé, il avait entendu parler de ces choses-là, n'est-ce pas ? De ce Jésus, de sa bonté, de sa miséricorde. Et ça lui parlait à lui. Ça le touchait profondément. Toujours est-il que dès qu'il a su que Jésus passait par là, il a pris une très bonne initiative, peut-être la plus belle initiative de sa vie. Faire le nécessaire pour pouvoir voir Jésus. Et donc, lorsque Jésus est entré dans la ville et qu'il l'a traversé, Zachée est sorti de chez lui ou de son bureau, je ne sais pas d'où, pour aller le voir. Or, il s'est vite aperçu de l'impossibilité de s'approcher de Jésus, car il a fait face à deux problèmes, à deux difficultés majeures. La foule compacte, agglutinée autour de Jésus, et deuxième difficulté, surtout lorsqu'il est en attroupement, sa petite taille. Comment un tout petit homme peut voir ce qui se passe de l'autre côté alors qu'il y a une foule immense devant lui, n'est-ce pas? Or, ces difficultés constatées, Zachée a vite trouvé la solution. La solution qui lui permettrait d'être au premier loge au moment où Jésus passerait devant lui. Zachée a vite vu dans quelle direction Jésus se dirigeait. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous dit Luc, il a couru en avant et est monté sur un sycomore qui se trouvait au bord de la route afin de voir Jésus car il devait passer par là. Comme disait l'autre, action, réaction. Pour chaque problème, une solution. Quand on veut, on peut. C'était sans doute sa devise à ce moment-là, parce qu'il voulait voir Jésus. Zachée ressentait ce désir ardent de contempler Jésus, de le voir. Et il a su surmonter les obstacles qui se présentaient devant lui. Il a réussi à créer une situation qui lui serait favorable, en anticipant, bien sûr, se placer là où il fallait pour voir Jésus sans être gêné par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. En fait, ce qu'il a fait, notamment le fait de grimper sur un arbre, alors que quand même il était un notable, montre vraiment sa détermination, n'est-ce pas, le sérieux de son intérêt à s'approcher de Jésus pour le voir. Il lui fallait du courage pour faire cela. Tant pis pour les règles de bienséance, n'est-ce pas? Tant pis pour le qu'en dira-t-on? Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Voilà tout ce qui comptait pour lui. Cela cache plus qu'une simple curiosité, je pense. Oui, même si la curiosité est à la base. Il s'agit là d'un besoin profond de son âme qui montre le vide de son cœur. Le vide de son cœur. Peut-être un malaise spirituel qu'il ressentait. Et il souhaitait ardemment avoir le bonheur de voir Jésus, de retenir au moins les traits de son visage. Ça pourrait lui suffire. Ce n'est plus Adam qui se cache parmi les arbres du jardin, n'est-ce pas, pour échapper à la voix de sa propre conscience et à la présence de Dieu qu'il craignait. Au contraire. C'est le cœur de Zachée qui le conduit vers Jésus simplement pour le voir, sans même rien lui demander, juste le voir. Chers amis, je vois là le premier mouvement de la foi vers le Sauveur Jésus-Christ. Voilà le premier mouvement de la foi vers le Sauveur auquel celui-ci répond surabondamment. C'est ce que nous allons lire encore. Et alors, a-t-il réussi à satisfaire son désir? Beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Alors que Jésus passait devant le sycomore où Zachée se trouvait, il y a eu quelque chose d'inattendu. Zachée ne s'attendait pas du tout à ce qui allait se passer. À son plus grand étonnement, Jésus l'interpelle et lui dit, on va lire le texte. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Waouh ! Waouh ! Imaginez l'effet de surprise, n'est-ce pas ? Zachée ne croyait pas ses oreilles. « Zachée, mais c'est moi. Il m'appelle, moi, Zachée. J'ai bien entendu. Il m'appelle par mon nom. Mais il me connaît. Sans doute que toutes ces questions ont traversé son esprit en une seconde, n'est-ce pas, le temps de descendre, etc. Il ne comprenait pas. Son cœur peut-être battait à 1000 à l'heure, n'est-ce pas? Il ne s'attendait pas du tout à ça. Tout cela ressemblait davantage à un conte de fées, une hallucination d'un esprit fatigué, un rêve, qu'à la réalité. Et pourtant, c'était bien vrai. Jésus l'a interpellé, l'a appelé par son nom. Et en plus, il lui a proposé d'aller chez lui. D'aller chez lui. En fait, Jésus va zacher sur le sycomore, comme au début de son ministère, il avait vu Nathanaël sous le figuier. Et il a lu dans le cœur de Zachée son ardent désir d'une autre vie, son ardent désir de salut, même s'il ne le savait pas encore. Et il s'invite, c'est Zachée, malgré les murmures des uns et des autres. Cela veut dire que le Seigneur connaît parfaitement le cœur de Zachée. Il sonde son cœur. Il sait l'état, exactement l'état de son cœur comme il le sait pour chacun de nous ici. Rien n'est caché au Seigneur, nous dit la parole de Dieu. Il nous connaît parfaitement. L'Évangile dit qu'il sait ce qui est dans le cœur de l'homme. Il voit dans le secret de nos cœurs. Même nos cheveux sont comptés. Ça veut dire qu'il nous connaît comme la paume de sa main. Il nous connaît parfaitement. Il connaît tout de nous, nos besoins, nos insuffisances, nos péchés, nos points forts dans la vie. Il connaît tout, tout. Rien n'échappe au Seigneur. Ce qu'il y a d'infini en nous et que nous ne connaissons pas, il le connaît parfaitement. Il s'intéresse à nous et aux détails même de nos vies. Jésus l'appelle donc à descendre et à lui ouvrir sa maison. Il fallait que ce jour-là, un jour de grâce pour cet homme, le salut vienne dans cette maison et dans la vie de cet homme. Jésus était là, le Sauveur était là, la grâce était là. Bien entendu, même étonné, Zachée n'a pas eu le temps de demander si sa maison était propre ou non, s'il l'avait rangée ou non, s'il avait un pantalon, une chaussure. Non, il n'a pas eu le temps de se poser ces questions-là. Il a obéi et il est descendu de l'arbre et il a reçu Jésus avec joie dans sa maison. Et on peut imaginer la joie de cet homme. Luc nous dit, il ne dit rien sur l'entretien privé. C'est dommage, mais il ne dit rien sur l'entretien. Parfois, il y a des choses qui sont privées, ils doivent rester privées, n'est-ce pas ? Que Jésus a eu avec Zachée, mais ce qu'il dit, c'est qu'à la suite de ce tête-à-tête de Zachée avec Jésus, Zachée est sorti complètement bouleversé. Complètement bouleversé. Il a changé complètement. Sa vie a été complètement transformée. Ce n'était plus la même. Cela se voit par la déclaration publique qu'il a faite, selon laquelle il s'engage à donner la moitié de ses biens aux pauvres et à rendre au quadruple l'argent qu'il avait pris en trop. Et suite à cette décision et cet engagement de sa part, Jésus déclare que cet homme a trouvé le salut. Cet homme a trouvé le salut. Jésus lui dit, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était le cas de Zachée, ce qui est le cas de l'humanité tout entière. Fils de l'homme, c'est le nom que le prophète Daniel, dans l'Ancien Testament, a donné au Messie qui devait venir. Et donc, Jésus a repris ce nom que le prophète lui avait donné. Et il se présentait donc en tant que fils de l'homme, c'est-à-dire pour affirmer à la fois sa divinité, il venait de Dieu, sa divinité, et sa solidarité avec l'humanité qu'il est venu sauver, donc fils de l'homme. Jésus est venu chercher et sauver les hommes qui étaient condamnés à mourir à cause de leurs péchés, c'est-à-dire nous tous, n'est-ce pas ? Nous tous, car depuis la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin, l'humanité tout entière a été éloignée de Dieu et condamnée à la mort. De fils d'Abraham, selon la nature, Zachée devient maintenant fils d'Abraham par la foi. Le miracle de la conversion, le miracle de la nouvelle naissance, comme on le disait dimanche passé avec Nicodème, s'est produit en lui par la présence de Jésus dans sa maison et dans sa vie. Jusque-là, il était un homme riche quant au monde. Grâce à cette rencontre, Jésus a fait de lui un homme riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Plus attaché aux richesses d'en haut qu'à celles d'en bas. Voilà le changement de direction, le demi-tour que cet homme a fait dans sa vie, qui a été opéré par la présence de Jésus chez lui et à ses côtés. Ses richesses ne constituaient plus un obstacle, le candidat-on non plus, sa profession non plus, la foule non plus, plus rien n'intéressait, ne l'empêchait de vivre cette relation avec son Sauveur. Voilà ce qui se passe dans la vie de celui qui accorde toute sa confiance à Jésus. Il lui pardonne tous ses péchés et en plus il l'aide à vivre une vie d'obéissance au commandement du Seigneur, l'obéissance de la foi, comme dit l'apôtre Paul, à vivre en nouveauté de vie, à vivre une vie en abondance, une vie différente, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Chers amis, Jésus vous connaît mieux que quiconque, mieux que vous-même. Il sait quel est votre état spirituel, il sait quels sont vos besoins, il sait que vous avez besoin de lui pour être sauvé, puisqu'il est venu pour vous sauver, pour nous sauver. Il sait, il est capable de vous donner la vie, cette vie avec un grand V, cette vie qui vaut la peine d'être vécue. Soyez aussi curieux face au message de l'Évangile et face à la personne de Jésus. Ne vous contentez pas de oui-dire. Allez à la source, afin de rencontrer Jésus dans les Évangiles, dans les Écritures, dans la parole de Dieu qu'il a inspirée pour nous, pour l'humanité. Et vous verrez que le Sauveur qui nous est annoncé dans l'Évangile, il s'intéresse à vous et il vous appelle par votre nom. Il vous connaît, il vous appelle par votre nom. Sans doute, comme tout le monde, vous aurez besoin de vaincre des obstacles, n'est-ce pas ? Des obstacles comme ceux peut-être de Zachée, mais d'autres que vous connaissez mieux que quiconque. Votre statut social, vos collègues, votre travail, votre condition financière, peut-être un handicap quelconque. Les murmures de la foule, les traditions qui étaient les vôtres, les nôtres avant de connaître l'Évangile, n'est-ce pas, et qui sont encore là en train de nous dire « mais non, c'est pas ça ». Non, non, toutes ces choses-là souvent sont des obstacles, mais c'est Jésus qui peut nous aider à vaincre ces obstacles. Venez à Jésus et vous verrez ce qu'il fera de votre vie. Vous avez vu ce qu'il a fait dans la vie de Zachée, il transformera votre vie à vous aussi. Il désire venir habiter en vous. Alors pour terminer, je dirais, Zachée, Luc, Émilie, Suzanne, Pierre, etc., hâtez-vous de descendre, car il faut que je devienne aujourd'hui dans vos maisons et dans votre vie. Amen.